Paso doble.
Paso doble.
Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Guy Delisle.
Bonjour Toufi Kakem.
Racontez en 432 pages l'expérience d'une captivité. Relatez le calvaire vécu par Christophe André qui travaille dans une ONG dans le Caucase et qui va être pris en otage pendant de longs mois par une milice tchétchène. C'est le sujet de votre dernière bande dessinée qui a pour titre « S'enfuir » édité aux éditions d'Argo. Et c'est tout à la fois une épreuve et un défi. C'est un récit aussi très différent de ce que vous avez fait auparavant, et c'est vraiment réussi. Je vous dirai pourquoi plus tard, mais d'abord, qui est Christophe André, Guy Delisle ?
Alors Christophe André, c'est quelqu'un que j'ai rencontré qui a travaillé dans l'humanitaire. Donc comme moi, j'ai fréquenté pas mal de gens avec ma femme qui travaillait dans une ONG humanitaire. Je l'ai croisé un jour pendant un repas et il m'a raconté son histoire que je connaissais déjà parce que je l'avais lu dans le Libé quand il sortait. Et même, j'en avais parlé parce que ça m'avait fasciné déjà à l'époque. J'avais évoqué son histoire dans Shenzhen, une bande dessinée que j'ai fait en 2001. Je l'ai rencontré lui en 2002. Et ça m'a étonné parce qu'il s'ouvrait très facilement. Moi, je pensais que les kidnappés, c'est des histoires qu'il voulait oublier, qu'il voulait pas raconter. Mais lui, non, il m'a raconté tous les petits détails, comment ça s'était passé. Et j'ai trouvé ça fascinant. J'en avais des frissons. Et je lui ai dit, il faudrait faire ça en BD. Il m'a dit oui. Donc voilà, 15 ans après, j'ai réussi à la faire.
Alors, comment vous avez travaillé avec lui et pourquoi ça a pris autant de temps, 15 ans ? Alors, vous vous rencontrez 5 ans après sa captivité ?
Ça doit être ça, ouais. 5 ans après sa captivité, lui, il avait déjà continué son travail, il était retourné à travailler dans l'ONG, dans une ONG. Et moi, je revenais de la Chine, je travaillais sur Pyongyang à l'époque, c'est ça, ouais. Et je m'étais dit, après Pyongyang, je vais faire son histoire. Et il était d'accord, et puis j'ai commencé une dizaine de pages, et j'ai dû m'arrêter pour travailler dans le dessin animé, parce que j'alternais d'un à l'autre. Et en revenant, le découpe, ça convenait pas, j'avais fait un truc trop classique, trop enlevé, et ça faisait un peu télésérie, un peu cheap. Donc j'ai dit, c'est pas l'option qu'il faut prendre pour ça, je l'ai mis de côté. Et après, ben, les autres bandes dessinées ont pris le pas. C'est-à-dire que je revenais de Birmanie, je me suis dit, bon, dans la foulée du voyage, je veux faire l'histoire sur la Birmanie. Et après, pareil pour Jérusalem. Et donc, après Jérusalem, un gros livre comme ça, je me sentais pas d'attaquer un autre gros bouquin. Donc, voilà, j'ai fait des petites histoires légères, c'est devenu le guide du mauvais père. Et là, voilà, c'était la dernière essai, parce que j'avais fait une autre tentative aussi, que j'avais mis de côté. Et pendant 15 ans, ça a mûri, heureusement, parce que l'expérience des autres livres que j'ai fait avant m'ont permis de prendre... voilà un récit qui au début commence sur les chapeaux de roue, mais de le traiter de façon très très sobre, parce que ce qui était important là-dedans, c'était son expérience, son récit qui supporte tout ça. Il n'y avait pas besoin de rajouter des effets de manche ou des effets tout court. Donc je l'ai gardé sobre et c'est son récit qui vient au premier plan.
Mais quand je dis comment vous avez travaillé, est-ce que vous avez enregistré son témoignage ou est-ce qu'au fur et à mesure que vous essayez de raconter cette histoire, il était avec vous, il vous donnait des indications, il enrichissait votre récit graphique? Comment ça s'est passé entre vous deux?
Ah, il y a un peu tout ça, parce que sur les 15 années, on a continué à se voir régulièrement. Il a des enfants de mon âge et voilà, on s'est liés d'amitié. Et c'est pour ça aussi, je crois que ça a pu durer 15 ans et qu'il a toujours eu confiance en mon travail. Moi, j'avais un document qu'avait fait l'ONG à sa sortie pour garder une trace de tout ça, que j'ai lu et que je gardais en travail. Mais à un moment, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'enregistre et que j'aille beaucoup plus dans le détail. Et j'ai passé une journée comme ça chez lui. Il est venu aussi à Montpellier. Et j'avais ces bandes sonores qui sont restées dans le tiroir pendant longtemps. Et je les ai sorties régulièrement. Je les ai tout redécoupées. J'ai retravaillé là-dessus. Donc pour moi, c'était aussi nouveau comme travail parce que j'avais jamais fait quelque chose comme ça, en fait. Et faire parler quelqu'un d'autre, my God, au début, je me disais, je pourrais pas. Quand c'est moi, voilà, je peux me mettre dans des situations pas trop glorieuses. Il n'y a pas de problème. Mais là, voilà, j'y arrivais pas. Et après, voilà, j'ai commencé avec la première journée, le kidnapping et tout. Et, Et lui, au fur et à mesure, lisait. Donc après, il me faisait des retours. Et voilà, je changeais des trucs, on changeait d'angle un peu, mais pas tant que ça. Ce qui fait que ça m'a donné un moment confiance. Et puis voilà, le récit a pu avancer assez rapidement et se faire presque d'une traite à un moment. Mais au fur et à mesure, il lisait. Donc j'avais toujours son aval là-dessus parce que moi, c'était important. Je voulais faire un récit d'immersion. Je voulais qu'on soit dans sa tête, mais je voulais que lui s'y retrouve complètement quand l'album soit fini, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Et à un moment même, je lui disais, tu sais, ça, c'était la troisième photo ou la deuxième photo que tu as pris. Enfin, à un moment, je connaissais plus l'histoire que lui, donc je l'appelais, il dit mais non, il y a eu que deux photos. Je dis non, il y avait une troisième, tu sais, entre octobre, septembre. Il dit ah, oh, j'aurais un peu oublié parce que lui, ça faisait déjà 20 ans. Mais moi, je connaissais le truc par cœur, je l'avais découpé sur la bande sonore.
Alors, comment rendre compte d'une captivité, Guy Delisle, avec un décor unique, la chambre où l'otage est attaché au radiateur par des menottes, la porte qui est fermée, la fenêtre qui est obturée. Est-ce que pour vous, ça a été aussi un défi en tant qu'auteur de bande dessinée que de rendre compte de ce calvaire, de cette répétition des scènes, de cette multiplication des points de vue pour que le lecteur sente toute la tension qui devait animer Christophe André alors qu'il était otage?
Je m'en suis pas aperçu au complet. Je me disais que ça allait être un peu complexe à mettre en scène, surtout très minimaliste. Ça me faisait pas trop peur parce que je savais que... Mais à un moment, j'en pouvais plus parce que ce... À un moment, il passe 200 pages torse nu dans une pièce. Voilà, l'équilibre, c'était de trouver quand même une certaine forme d'intensité, parce qu'il y a un suspense. On se demande quand même comment il va s'en sortir, comment il va arriver à. Donc, les pages se tournent, mais je voulais faire passer l'ennui. Donc, au début, il se voyait là pendant 24 heures. Donc, il se disait, voilà, le week-end va passer, je vais retourner bosser, et puis ça va être fini cette histoire. Une semaine passe. Donc, je voulais que dans sa tête, tout ça, cette chronologie-là, on la sente passer. Donc, la première journée, elle est très longue. Parce que je m'imaginais, on s'attache, on m'attache moi à un radiateur une journée, mais je veux dire fou en fait, après 24 heures. Donc je voulais qu'on la sente bien, après qu'on travaille en termes de semaines. Et après lui c'est pareil, à un moment il dit t'es obligé de réfléchir en termes de mois. Donc il voyait le mois d'octobre passer, le mois de novembre, il dit attends, mais je vais passer Noël ici, c'est pas possible, je meurs, Noël ici c'est pas possible. Donc je voulais que le temps passe, et ça le temps on peut pas dire ça a été long, je me suis ennuyé et il y avait une routine. Et après on passe, non, et pour le faire sentir, voilà, il faut du texte, il faut surtout de l'image, il faut de la page qui tourne. Et je voulais que le lecteur soit pris, qu'il tourne les pages, mais qu'il se sente étouffé. Voilà, je voulais qu'on soit en immersion. Et donc c'est un gaufrier qui se répète beaucoup, il y a un côté répétitif, il y a un côté routinier, mais je voulais que le lecteur le sente, et c'est la seule façon de le faire passer. Ouais. Donc c'est un équilibre à trouver entre un suspense et puis une routine.
Et c'est ce qui est complètement réussi dans votre livre, Guy Delisle. Non, mais c'est vraiment très réussi. Et donc, il y a ce suspense dans ces scènes de répétition, dans ce quotidien de l'otage. Ce suspense, c'est est-ce qu'il va savoir chaque jour quel jour nous sommes, alors qu'ils se ressemblent tous ces jours?
Ah oui, il avait trois fois par jour un bouillon de légumes qui lui arrivait matin, midi et soir, et c'est tout en fait. Mais lui, ce qu'il me disait, et ça, c'était extrêmement important pour lui, c'est-à-dire que quand il se levait le matin... Et voilà, il se rappelait de la date, il disait aujourd'hui on est le 16 octobre, le 16 octobre, il se le répétait comme ça plusieurs fois pour que ça soit bien marqué dans son esprit et qu'il ne le rate pas, parce qu'il disait c'est le seul repère que j'avais, j'étais là, j'avais aucune idée où j'étais, en quelque part en Tchétchénie, et même il n'était pas sûr s'il était en Tchétchénie, ça pouvait être à côté, il était parti de l'Ingouchie. Et donc voilà, le seul repère spatial, c'est ce qu'il avait, c'était dans le temps, spatial il ne l'avait pas, et il ne savait pas combien de temps il allait rester là, parce qu'il avait été pris pourquoi, aucune idée, et combien de temps ça va durer, il ne savait pas. Donc la date était extrêmement importante, et quand il me raconter ça, je trouvais ça tellement fascinant.
Et surtout, elle est très importante dans la narration, du coup, oui. Ça devient le suspense.
Oui, parce que lui, ses journées étaient rythmées, comme il me disait. La nuit arrivait, l'espoir arrivait, parce que s'il était échangé, s'il était déplacé, ça se passerait la nuit. Donc il écoutait les bruits, qu'est-ce qui allait se passer, il s'endormait, et quand il se réveillait le matin, il voyait que le jour s'était levé, il disait, oh non, une autre journée a passé ici, et là, il sombrait un peu dans la dépression, et la journée passait, et l'espoir remontait. Donc chaque journée est une espèce de yo-yo ascensionnel comme ça, d'émotions où il se disait ah non, c'est reparti pour une journée, et après l'espoir revenait. Donc ça me fascinait, je voulais vraiment qu'on le sente dans la bande dessinée.
Et comment avez-vous fait, Guy Delisle, pour multiplier les points de vue de ce huis clos?
Je voulais pas jouer sur les effets de gros plans et trop, et parce que j'avais peur en jouant sur des effets un peu spectaculaires, que ça fasse un peu comme des mangas où à tire-larigot on fait des contre-champs, on fait des prises de vue en haut. Je voulais qu'on reste quand même assez sobre, donc j'avais pas beaucoup de possibilités, parce que tout simplement le récit, toutes ces anecdotes que lui me racontait, en fait il entendait bang bang bang, il se demandait si on tirait dehors au fusil. À un moment il s'est rendu compte que c'était un enfant, c'était la voisine qui venait, et son enfant jouait au ballon dans le couloir. Il ouvre la porte un jour, ce gamin, Et il le regarde, donc il se retrouve face à face avec cet enfant de 5 ans avec un ballon qui le regarde, lui torse nu, attaché à un radiateur au fond d'une pièce. Et il a senti une humiliation profonde de ça. Et voilà. Et bien ça, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Il suffit d'accompagner le texte et c'est suffisant. D'en rajouter, ça vient parasiter un peu son récit. Donc je suis resté sobre. Et moi, les petits détails, je savais qu'ils fonctionneraient. Donc je me suis basé vraiment sur ça pour que ça continue, pour que le lecteur soit pris par l'histoire.
Comment ne pas déprimer? L'otage Christophe André rêve de plusieurs scénarios où il s'évade et quand il en a marre de ses rêves, il s'accroche à une de ses passions, les récits historiques, les épopées militaires de la guerre de sécession en campagne de Napoléon. Et tout cela, c'est-à-dire en plus du réel, ses rêves, ses obsessions, sa manière à lui de résister hein, aussi, vous mettez ça en dessin?
Oui, parce que qu'est-ce qui nous reste? En fait, on se met tous dans sa peau. On se dit, qu'est-ce que moi je ferais à ce moment-là? Donc là, il a pas de crayon, il a pas de bouquin à lire. Il est laissé complètement à lui-même. Il reste quoi? Il reste les souvenirs, il reste l'imagination. Alors, dans les souvenirs, il disait, il faut pas que je pense à ma famille, il faut pas que je pense à ma sœur qui va se marier bientôt. Et donc, voilà, c'est l'imagination qui prend le pas. Lui, il adore l'histoire, il est passionné, et surtout l'histoire militaire. Donc il se refaisait des grandes batailles d'empire, il se faisait Borodino, il se faisait Azincourt, il connaît tous les mouvements de troupes, de cavalerie et tout ça, et ça le passionne. Et il se faisait aussi l'alphabet au complet de A à Z avec des généraux d'empire, et il se refaisait l'alphabet une fois et demie, et voilà, ça passait le temps, et voilà, on s'enfuit aussi d'une autre façon, c'est avec l'imagination, et c'est pour ça que le titre à un moment s'est imposé à moi. Voilà, il s'enfuit certes, mais il s'enfuit avant d'une autre façon.
Alors c'est une bande dessinée très particulière parce que cet otage, il va être entouré de personnes avec qui il va pas pouvoir communiquer, ils ne parlent pas leur langue.
Eh oui, non, il avait quelques bases de russe, en fait, il connaissait quelques mots, mais c'était des Tchétchènes, il parlait entre eux en Tchétchène. Donc, et au début, quand même, avec l'anglais et les gestes, il aurait pu essayer de les amadouer, mais comme il se sentait à un moment en train de glisser vers quelque chose qui ressemblait à le syndrome de Stockholm, parce qu'au tout début, c'était un peu l'espèce de guerre bizarre où il venait lui offrir une clope, un verre de vodka, et ce qui est drôle aussi, c'est qu'il se disait, est-ce que je suis en train de pactiser avec l'ennemi avant de boire son verre de vodka? Il disait, non, c'est plutôt entretenir le moral des troupes, et là, hop, il s'envoyait son verre de vodka. Mais à un moment, le soir, quand il bonne nuit, il dit good night, il s'est dit, mais attends, good night, en fait, qu'est-ce que t'es en train de faire là? En fait, ces gens-là t'attachent à un radiateur et tu leur dis bonne nuit, en fait. Et à partir de là, psychologiquement, il y a un truc qui s'est passé. Et là, il est rentré en résistance. Il a dit, eux, ce sont mes ennemis, ils sont dans un autre camp, moi, je suis là. Donc, il fonctionne en termes un peu militaires. Il y a un camp, il y a mon camp. Et à partir de là, voilà, il a dit, il faut que j'arrive à m'évader. C'était un peu la première fois où il s'est mis en résistance. C'est arrivé aussi après. Il y a plusieurs étapes comme ça. Et ça me tenait à cœur de le faire passer dans la bande dessinée.
Guy Delisle, est-ce que vous êtes mis dans la peau de cet otage de Christophe André pendant toute cette préparation ou même quand vous mettiez à dessiner ce récit S'enfuir?
Bon, d'une certaine façon, je me suis acheté des menottes parce que je savais c'était vraiment un élément de dessin qui reviendrait tout le temps. Et à un moment, il me fallait des photos, donc je me suis mis torse nu dans la pièce de l'atelier où il y a justement un radiateur et donc mon camarade d'atelier m'a bombardé de photos. Des photos qui, j'espère, circuleront jamais sur Internet. Et donc voilà, j'avais ces références. Et à un moment, je me suis dit, tiens, je pourrais aussi pousser le truc et m'attacher pendant 24 heures et voir un peu ce qui se passe, comment on tient et tout ça. Mais bon, c'est comme les acteurs, je préfère jouer le rôle. Et de toute façon, c'était la parole de Christophe André qui importait là-dedans. C'était pas la mienne, donc je voulais pas mélanger les pinceaux, mais j'y songeais.
Et la musique qui vous accompagnait pendant l'élaboration de ce roman graphique de plus de 430 pages, S'enfuir, Guy Delisle?
Ouais, il y a beaucoup de styles de musique que j'écoute, et il y a beaucoup de musique, il y a aussi beaucoup de podcasts que j'écoute. Des fois, je passe plus de temps à chercher le podcast que je veux écouter que vraiment travailler sur ma page. Mais donc le matin, j'écris, l'après-midi, je dessine. Alors l'après-midi, je mets de la musique. Alors, j'écoute un peu tout, mais j'écoute des fois, faire le dessin et terminer la page me demande tellement d'efforts et d'énergie, parce qu'au bout de 200 pages, quand on dessine presque le même plan, voilà, il me fallait de la musique qui bouge. Donc pendant un grand moment, je mettais des grands mix de house, en fait, que je trouve sur certains podcasts comme Tsugi, ce genre de trucs. Donc il faut que je mette quelque chose qui m'abrutit un peu, donc ça pulse, ça avance. Et voilà, après de la musique électrique australienne, j'écoutais pas mal Civic qui me faisait bouger aussi pas mal.
avec Guy Delisle ce matin dans Pas à Doblé pour parler de S'enfuir, récit d'un otage édité chez Dargo, comment restituer le réel. L'épreuve éprouvante de cet otage, Christophe André, qui est resté finalement combien de temps ?
Lui, il a passé 111 jours en fait, et le gars, pas de bol, parce que c'était sa première mission dans l'humanitaire, il a fait 3 mois. Et comme il me dit, après 3 mois de kidnapping, donc 3 mois assis à sa table de travail, puis 3 mois allongé sur sa paillasse.
Mais à la fin, on apprend qu'il est reparti vers d'autres aventures dans des pays tout aussi incertains. C'est-à-dire, comment on vit avec ça ? Est-ce que vous êtes toujours en contact avec Christophe André ?
Ah oui, bien sûr, ouais. Il va même faire quelques événements avec moi. On va aller à Blois ensemble, par exemple. Je lui ai dit, à Blois, ça va te plaire, il n'y a que des historiens, tu vas te sentir comme un poisson dans l'eau. Et en fait, ce que Christophe me disait, qu'il me racontait, c'est que de s'être évadé, c'était la meilleure thérapie possible, en fait. Parce que beaucoup de kidnappés traînent ça. C'est une souffrance où il y a des cicatrices. Mais lui, il s'est échappé, il est parti, il n'avait plus de compte à rendre à personne. On l'a invité sur des plateaux télé. Il a dit « Oh non, merci, ça ne m'intéresse pas ». Il a fait 6 mois de vacances. À un moment, il s'ennuyait. Il dit « Moi, je veux repartir en mission ». Ils ont dit « T'es sûr ?» et tout ça. Et ils lui ont filé une mission au Laos. Alors tranquille, chez les bouddhistes. Il est resté là pendant 1 an et demi. Et après, il a travaillé pendant 20 ans avec la même ONG. Il est allé un peu partout en Afrique après. Donc ça l'a pas arrêté sur ce qu'il avait envie de faire, sur son engagement dans l'humanitaire.
Vous ne nous avez pas habitués à ce genre de récit, Guy Delisle. Hein, vous vous êtes fait remarquer avec ce genre qu'on appelle maintenant la bande dessinée reportage, en accompagnant d'ailleurs votre épouse dans des contrées lointaines. Ça a donné Pyongyang, bien sûr, Chronique de Jérusalem ou Chronique birmane. Là, c'était plus du gonzo, du journalisme en dessin. La part de subjectivité était assumée. Vous vous représentiez vous-même dans le contexte, comme on dit. Votre autre série dans le registre comique, Le Guide du Mauvais Père, s'inspire aussi de vos expériences de père. Mais cette fois-ci, vous êtes dans la restitution d'une histoire grave qui n'est pas la vôtre.
Oui, c'est peut-être pour ça que ça m'a pris autant de temps, que je l'ai remis en me disant je le ferai plus tard, parce que je savais que c'était vraiment une autre méthode de travail pour moi, de faire parler quelqu'un d'autre, et puis le dessin qui est un peu plus réaliste qui s'imposait. Et oui, j'ai essayé une version, deux versions, et celle-là, c'était la bonne. Mais bon, je suis ravi maintenant d'avoir attendu, parce que l'expérience fait que l'album, maintenant, il ressemble vraiment à ce que j'imaginais au départ, d'avoir ces contraintes d'immersion et de le mettre comme ça. Et après, c'est la liberté qu'on a, auteur de BD. C'est que moi, demain, si j'ai envie de faire un récit de science-fiction, j'ai pas à convaincre un réalisateur que c'est une bonne idée, qu'il faut absolument faire ça. Je peux m'y mettre et après, si un éditeur voudra l'éditer, il le fera. Mais j'aime bien cette latitude, cette liberté. Et quelque part, il y a quand même une continuité, parce que là, ça continue toujours avec l'humanitaire. Moi, je suis parti avec ma compagne, j'ai rencontré Christophe grâce à ça aussi. Et quelque part, dans l'enfermement, ou surtout dans la solitude, il y avait un peu ça dans Shenzhen et la liberté, parce que quand je suis allé en Corée du Nord et qu'on va en Chine, on voit le degré de liberté de ces gens-là. Moi, quand j'ai fermé la porte derrière l'avion en Corée du Nord, je savais très bien que je ne reverrais jamais ces gens, c'était fini, je ne peux pas garder contact avec eux. Et là, c'est jusqu'au bout, parce que là, lui, il perd sa liberté complètement, la plus fondamentale. Il ne peut plus bouger. Et quelque part, ce thème-là revient dans mes bandes dessinées. Et moi, personnellement, ça me fascine.
Merci, Guy Delisle.
Merci.
Il y a quelque chose qui me dit qu'en janvier, genre à l'heure des bilans et des palmarès de l'année, on va reparler de S'enfuir de Guy Delisle. Et vous allez sans doute bientôt rejoindre Céline Dion et Xavier Dolan dans le panthéon des Québécois adulés de par le monde et même en France.
On verra. Je peux pas me comparer à Céline Dion, bien sûr, ni à Xavier Dolan. Je me sens pas de la même famille.
Et merci pour le dessin que vous nous avez laissé spécialement pour le site de l'émission Pas au Doblé. Mais là, c'est pas Christophe André qu'on voit.
Non, j'ai voulu me dessiner moi quand je faisais la bande dessinée, c'est-à-dire qu'à un moment vers la 300e page, je me rappelle qu'il fallait vraiment que je me pousse pour y aller parce qu'il y avait quand même ce côté répétitif qui était un peu pesant et je me sentais presque autant otage que lui à le dessiner. Donc voilà, je me suis dessiné avec des menottes attachées à ma table de travail, mais ça prenait ça pour faire l'album.
Merci.
Merci.